Le temps retrouvé, chapitre 3, suite. Chez certains êtres, le remplacement successif, mais accompli en mon absence, de chaque cellule par d'autres, avait amené un changement si complet, une si entière métamorphose, que j'aurais pu dîner 100 fois en face d'eux dans un restaurant, sans me douter plus que je les avais connus autrefois, que je n'aurais pu deviner la royauté d'un souverain incognito ou le vice d'un inconnu. La comparaison devient même insuffisante pour le cas où j'entendais leur nom, car on peut admettre qu'un inconnu assis en face de vous soit criminel ou roi, tandis que je les avais connus, ou plutôt j'avais connu des personnes portant le même nom, mais si différentes que je ne pouvais croire que ce fussent les mêmes. Pourtant, comme j'aurais fait en partant de l'idée de souveraineté ou de vice qui ne tarde pas à donner à l'inconnu, avec qui on aurait fait si aisément, quand on avait encore les yeux bandés, la gaffe d'être insolent ou aimable. Dans les mêmes traits de qui on discerne maintenant quelque chose de distingué ou de suspect, je m'appliquais à introduire dans le visage de l'inconnu, entièrement inconnu, l'idée qu'elle était Madame Sazera, et je finissais par rétablir le sens autrefois connu de ce visage, mais qui serait resté vraiment aliéné pour moi, entièrement celui d'une autre femme, ayant autant perdu tous les attraits humains que j'avais connus, qu'un homme devenu singe, si le nom et l'affirmation de l'identité ne m'avaient mis, malgré ce que le problème avait d'ardu, sur la voie de la solution. Parfois, pourtant, l'ancienne image renaissait, assez précise, pour que je puisse essayer une confrontation. Et comme un témoin mis en présence d'un inculpé qui l'a vu, j'étais forcé, tant la différence était grande, de dire « Non, je ne le reconnais pas. » Une jeune femme me dit « Voulez-vous que nous allions dîner tous les deux au restaurant ?» Et comme je répondais « Si vous ne trouvez pas compromettant de venir dîner seul avec un jeune homme, » j'entendis que tout le monde autour de moi riait, et je m'empressai d'ajouter « ou plutôt avec un vieil homme ». Je sentais que la phrase qui avait fait rire était de celle qu'aurait pu, en parlant de moi, dire ma mère pour qui j'étais toujours un enfant. Or, je m'apercevais que je me plaçais, pour me juger, au même point de vue qu'elle. Si j'avais fini par enregistrer comme elle certains changements qui s'étaient faits depuis ma première enfance, c'était tout de même des changements maintenant très anciens. J'en étais restée à celui qui faisait qu'on avait dit un temps, presque en prenant de l'avance sur le fait, « C'est maintenant presque un grand jeune homme !» Je le pensais encore, mais cette fois avec un immense retard. Je ne m'apercevais pas combien j'avais changé. Mais, au fait, eux qui venaient de rire aux éclats, à quoi s'en apercevaient-ils? Je n'avais pas un cheveu gris, ma moustache était noire. J'aurais voulu pouvoir leur demander à quoi se révélait l'évidence de la terrible chose. Et maintenant je comprenais ce qu'était la vieillesse. La vieillesse qui, de toutes les réalités, est peut-être celle dont nous gardons le plus longtemps dans la vie une notion purement abstraite, regardant les calendriers, datant nos lettres, voyant se marier nos amis, les enfants de nos amis, sans comprendre, soit par peur, soit par paresse, ce que cela signifie, jusqu'au jour où nous apercevons une silhouette inconnue, comme celle de M. d'Argencourt, laquelle nous apprend que nous vivons dans un nouveau monde. Jusqu'au jour où le petit-fils d'une de nos amies, jeune homme qu'instinctivement nous traiterions en camarade, sourit comme si nous nous moquions de lui, nous qui lui sommes apparus comme un grand-père. Je comprenais ce que signifiaient la mort, l'amour, les joies de l'esprit, l'utilité de la douleur, la vocation. Car si les noms avaient perdu pour moi de leur individualité, les mots me découvraient tout leur sens. La beauté des images est logée à l'arrière des choses, celle des idées à l'avant. De sorte que la première cesse de nous émerveiller quand on les a atteintes, mais qu'on ne comprend la seconde que quand on les a dépassées. Or, à toutes ces idées, la cruelle découverte que je venais de faire relativement au temps qui s'était écoulé ne pourrait que s'ajouter et me servir en ce qui concernait la matière même de mon livre, puisque j'avais décidé qu'elle ne pouvait être uniquement constituée par les impressions véritablement pleines, celles qui sont en dehors du temps, parmi les vérités avec lesquelles je comptais les servir, celles qui se rapportent au temps dans lequel baignent et s'altèrent les hommes, les sociétés, les nations, tiendraient une place importante. Je n'aurais pas soin seulement de faire une place à ces altérations que subit l'aspect des êtres et dont j'avais de nouveau exemple à chaque minute. Car tout en songeant à mon œuvre, assez définitivement mise en marche pour ne pas se laisser arrêter par des distractions passagères, je continuais à dire bonjour aux gens que je connaissais et à causer avec eux. Le vieillissement, d'ailleurs, ne se marquait pas pour tous d'une manière analogue. Je vis quelqu'un qui demandait mon nom. On me dit que c'était M. de Cambremer. Et alors, pour me montrer qu'il m'avait reconnu, « Est-ce que vous avez toujours vos étouffements ?» me demanda-t-il. Et sur ma réponse affirmative, « Vous voyez que ça n'empêche pas la longévité, » me dit-il, comme si j'étais décidément centenaire. Je lui parlais les yeux attachés sur deux ou trois traits que je pouvais faire rentrer par la pensée dans cette synthèse, pour le reste toute différente, de mes souvenirs, que j'appelais sa personne. Mais un instant, il tourna à demi la tête. Et alors, je vis qu'il était rendu méconnaissable par l'adjonction d'énormes poches rouges aux joues qui l'empêchaient d'ouvrir complètement la bouche et les yeux, si bien que je restais hébété, n'osant regarder cette sorte d'anthrax dont il me semblait plus convenable qu'il me parlât le premier. Mais comme, en malade courageux, il n'y faisait pas allusion et riait, j'avais peur d'avoir l'air de manquer de cœur en ne lui demandant pas, de tact en lui demandant ce qu'il avait. Mais ils ne vous viennent pas plus rarement avec l'âge ? Me demanda-t-il en continuant à parler de mes étouffements. Je lui dis que non. Ah ! Pourtant ma sœur en a sensiblement moins qu'autrefois, me dit-il d'un ton de contradiction, comme si cela ne pouvait pas être autrement pour moi que pour sa sœur, et comme si l'âge était un de ces remèdes dont il n'admettait pas, quand ils avaient fait du bien à Madame de Gaucourt, qu'ils ne me fussent pas salutaires. Madame de Cambremer le Grandin s'étant approchée, j'avais de plus en plus peur de paraître insensible en ne déplorant pas ce que je remarquais sur la figure de son mari, et je n'osais pas cependant parler de ça le premier. « Vous êtes content de le voir ?» me dit-elle. « Il va bien ?» répliquai-je sur un ton incertain. « Mais comme vous voyez !» Elle ne s'était pas aperçue de ce mal qui offusquait ma vue, et qui n'était autre qu'un des masques du temps que celui-ci avait appliqué à la figure du marquis. Mais peu à peu, et en l'épaississant si progressivement que la marquise n'en avait rien vu. Quand M. de Cambremer eut fini ses questions sur mes étouffements, ce fut mon tour de m'informer tout bas auprès de quelqu'un si la mère du marquis vivait encore. Elle vivait. Dans l'appréciation du temps écoulé, il n'y a que le premier pas qui coûte. On éprouve d'abord beaucoup de peine à se figurer que tant de temps est passé, et ensuite qu'il n'en est pas passé davantage. On n'avait jamais songé que le XIIIe siècle fût si loin, et après, on a peine à croire qu'il puisse subsister encore des églises du XIIIe siècle, lesquelles pourtant sont innombrables en France. En quelques instants, s'était fait en moi ce travail plus lent qui se fait chez ceux qui, ayant eu peine à comprendre qu'une personne qu'ils ont connue jeune ait 60 ans, en ont plus encore, 15 ans après, à apprendre qu'elle vit encore et n'a pas plus de 75 ans. Je demandai à monsieur de Cambremer comment allait sa mère. « Elle est toujours admirable, » me dit-il, usant d'un adjectif qui, par opposition aux tribus où on traite sans pitié les parents âgés, s'applique dans certaines familles aux vieillards chez qui l'usage des facultés les plus matérielles, comme d'entendre, d'aller appuyer à la messe et de supporter avec insensibilité les deuils, s'emprunt aux yeux de leurs enfants d'une extraordinaire beauté morale. Et si certaines femmes avouaient leur vieillesse en se fardant, elle apparaissait au contraire par l'absence de fard chez certains hommes sur le visage desquels je ne l'avais jamais expressément remarqué, et qui tout de même me semblait bien changé, depuis que, découragés de chercher à plaire, ils en avaient cessé l'usage. Parmi eux était le Grandin. La suppression du rose, que je n'avais jamais soupçonné artificielle, de ses lèvres et de ses joues, donnait à sa figure l'apparence grisâtre et à ses traits allongés et mornes la précision sculpturale et lapidaire de ceux d'un dieu égyptien. Un dieu ! Un revenant, plutôt. Il avait perdu non seulement le courage de se peindre, mais de sourire, de faire briller son regard, de tenir des discours ingénieux. On s'étonnait de le voir si pâle, abattu, ne prononçant que de rares paroles qui avaient l'insignifiance de celles que disent les morts qu'on évoque. On se demandait quelle cause l'empêchait d'être vif, éloquent, charmant, comme on se le demande devant le double insignifiant d'un homme brillant de son vivant et auquel un spirit pose pourtant des questions qui prêteraient au développement charmeur. Et on se disait que cette cause qui avait substitué au Le Grandin coloré et rapide un pâle et triste fantôme de Le Grandin, c'était la vieillesse. Chez certains, même les cheveux n'avaient pas blanchi. Ainsi je reconnus, quand il vint dire un mot à son maître, le vieux valet de chambre du prince de Guermantes. Les poils bourrus qui hérissaient ses joues tout autant que son crâne étaient restés d'un roux tirant sur le rose, et on ne pouvait le soupçonner de se teindre comme la duchesse de Guermantes. Mais il n'en paraissait pas moins vieux. On sentait seulement qu'il existe chez les hommes, comme dans le règne végétal, les mousses, les lichens et tant d'autres, des espèces qui ne changent pas à l'approche de l'hiver. Chez d'autres invités, dont le visage était intact, l'âge se marquait autrement. Ils semblaient seulement embarrassés quand ils avaient à marcher. On croyait d'abord qu'ils avaient mal aux jambes, et ce n'est qu'ensuite qu'on comprenait que la vieillesse leur avait attaché ses semelles de plomb. Elle en embellissait d'autres, comme le prince d'Agrigente. À cet homme long, mince, au regard terne, aux cheveux qui semblaient devoir rester éternellement rougeâtres, avait succédé, par une métamorphose analogue à celle des insectes, un vieillard chez qui les cheveux rouges, trop longtemps vus, avaient été, comme un tapis de table qui a trop servi, remplacés par des cheveux blancs. Sa poitrine avait pris une corpulence inconnue, robuste, presque guerrière, et qui avait dû nécessiter un véritable éclatement de la frêle chrysalide que j'avais connue. Une gravité consciente d'elle-même baignait les yeux. où elle était teintée d'une bienveillance nouvelle qui s'inclinait vers chacun. Et comme, malgré tout, une certaine ressemblance subsistait entre le puissant prince actuel et le portrait que gardait mon souvenir, j'admirais la force de renouvellement original du temps, qui, tout en respectant l'unité de l'être et les lois de la vie, sait changer ainsi le décor et introduire de hardis contrastes dans deux aspects successifs d'un même personnage. Car beaucoup de ces gens, on les identifiait immédiatement, mais comme d'assez mauvais portraits d'eux-mêmes réunis dans l'exposition où un artiste inexact et malveillant durcit les traits de l'un, enlève la fraîcheur du teint ou la légèreté de la taille à celle-ci, assombrit le regard de tel autre. Comparant ces images avec celles que j'avais sous les yeux de ma mémoire, j'aimais moins celles qui m'étaient montrées en dernier lieu. Comme souvent, on trouve moins bonne et on refuse une des photographies entre lesquelles un ami vous a prié de choisir. À chaque personne, et devant l'image qu'elle me montrait d'elle-même, j'aurais voulu dire « Non, pas celle-ci, vous êtes moins bien, ce n'est pas vous !» Je n'aurais pas osé ajouter « Au lieu de votre beau nez droit, on vous a fait le nez crochu de votre père, que je ne vous ai jamais connu. » En effet, c'était un nez nouveau et familial. Bref, l'artiste le temps avait rendu tous ses modèles de telle façon qu'ils étaient reconnaissables, mais ils n'étaient pas ressemblants. Non parce qu'il les avait flattés, mais parce qu'il les avait vieillis. Cet artiste-là, du reste, travaille fort lentement. Ainsi, cette réplique du visage d'Odette, dont, le jour où j'avais pour la première fois vu Bergotte, j'avais aperçu l'esquisse à peine ébauchée dans le visage de Gilberte. Le temps l'avait enfin poussée jusqu'à la plus parfaite ressemblance, comme on le verra tout à l'heure. Pareil à ces peintres qui gardent longtemps une œuvre et la complètent année par année. En plusieurs, je finissais par reconnaître, non seulement eux-mêmes, mais eux tels qu'ils étaient autrefois. Et Ski, par exemple, pas plus modifié qu'une fleur ou un fruit qui a séché, type de ces amateurs célibataires de l'art qui vieillissent inutiles et insatisfaits. Ski était resté ainsi un essai informe, confirmant mes théories sur l'art. D'autres le suivaient, qui n'étaient nullement des amateurs. C'étaient des gens du monde qui ne s'intéressaient à rien, et eux aussi, la vieillesse ne les avait pas mûris. Et même s'ils s'entouraient d'un premier cercle de rides et d'un arc de cheveux blancs, leur même visage poupin gardait l'enjouement de la 18e année. Ils n'étaient pas des vieillards, mais des jeunes gens de 18 ans extrêmement fanés. Peu de choses eût suffi à effacer ces flétrissures de la vie, et la mort n'aurait pas plus de peine à rendre au visage sa jeunesse qu'il n'en faut pour nettoyer un portrait, que seul un peu d'encrassement empêche de briller comme autrefois. Aussi je pensais à l'illusion dont nous sommes dupes quand, entendant parler d'un célèbre vieillard, nous nous fions davantage à sa bonté, à sa justice, à sa douceur d'âme, car je sentais qu'ils avaient été, 40 ans plus tôt, de terribles jeunes gens dont il n'y avait aucune raison pour supposer qu'ils n'avaient pas gardé la vanité, la duplicité, la morgue et les ruses. Et pourtant, en complet contraste avec ceux-ci, j'eus la surprise de causer avec des hommes et des femmes, jadis insupportables, et qui avaient perdu à peu près tous leurs défauts, soit que la vie, en décevant ou comblant leurs désirs, leur eût enlevé de leur présomption ou de leur amertume. Un riche mariage qui ne nous rend plus nécessaire la lutte ou l'ostentation, l'influence même de la femme, la connaissance lentement acquise de valeurs autres que celles auxquelles croit exclusivement une jeunesse frivole, leur avait permis de détendre leur caractère et de montrer leurs qualités. Ceux-là, en vieillissant, semblaient avoir une personnalité différente, comme ces arbres dont l'automne, en variant leurs couleurs, semble changer l'essence. Pour eux, celle de la vieillesse se manifestait vraiment, mais comme une chose morale qu'ils ne possédaient pas avant. Chez d'autres, elle était plutôt physique et si nouvelle que la personne, Madame de Souvray par exemple, me semblait à la fois inconnue et connue. Inconnue, car il m'était impossible de soupçonner que ce fût elle, et malgré moi, je ne pus m'empêcher, en répondant à son salut, de laisser voir le travail d'esprit qui me faisait hésiter entre 3 ou 4 personnes, parmi lesquelles n'était pas Madame de Souvray, pour savoir à qui je le rendais avec une chaleur, du reste, qui dut l'étonner, car dans le doute, ayant peur d'être trop froid si c'était une amie intime, j'avais compensé l'incertitude du regard par la chaleur de la poignée de main et du sourire. Mais d'autre part, son aspect nouveau ne m'était pas inconnu. C'était celui que j'avais souvent vu, au cours de ma vie, à des femmes âgées et fortes, mais sans soupçonner alors qu'elles avaient pu, beaucoup d'années avant, ressembler à Madame de Souvray. Cet aspect était si différent de celui que j'avais connu dans le passé qu'on eût dit qu'elle était un être condamné, comme un personnage de féerie, à apparaître d'abord en jeune fille, puis en épaisse matrone, et qui reviendrait sans doute bientôt en vieille, branlante et courbée. Elle semblait comme une lourde nageuse qui ne voit plus le rivage qu'à une grande distance, repousser avec peine les flots du temps qui la submergeaient. J'arrivais, à force de regarder sa figure hésitante, incertaine comme une mémoire infidèle qui ne peut plus retenir les formes d'autrefois, j'arrivais pourtant à en retrouver quelque chose, en me livrant au petit jeu d'éliminer les carrés et les hexagones que l'âge avait ajoutés à ses joues. D'ailleurs, ce qu'il mêlait à celle des femmes n'était pas toujours seulement des figures géométriques. Dans les joues de la duchesse de Guermantes, restées si semblables pourtant, et pourtant composites maintenant comme un nougat, je distinguais une trace de vert-de-gris, un petit morceau rose de coquillage concassé, une grosseur difficile à définir, plus petite qu'une boule de gui et moins transparente qu'une perle de verre. Certains hommes boitaient, dont on sentait bien que ce n'était pas par suite d'un accident de voiture, mais à cause d'une attaque, et parce qu'ils avaient déjà, comme on dit, un pied dans la tombe. Dans l'entrebâillement de la leur, à demi paralysée, certaines femmes, comme Madame de Franquetot, semblaient ne pas pouvoir retirer complètement leur robe, restée accrochée à la pierre du caveau. Et elles ne pouvaient se redresser, infléchies qu'elles étaient, la tête basse, en une courbe qui était comme celle qu'elles occupaient actuellement entre la vie et la mort, avant la chute dernière. Rien ne pouvait lutter contre le mouvement de cette parabole qui les emportait. Et dès qu'elles voulaient se lever, elles tremblaient et leurs doigts ne pouvaient rien retenir. Certaines figures, sous la cagoule de leurs cheveux blancs, avaient déjà la rigidité, les paupières scellées de ceux qui vont mourir, et leurs lèvres, agitées d'un tremblement perpétuel, semblaient marmonner la prière des agonisants. À un visage linéairement le même, il suffisait, pour qu'il semblât autre, de cheveux blancs au lieu de cheveux noirs ou blonds. Les costumiers de théâtre savent qu'il suffit d'une perruque poudrée pour déguiser très suffisamment quelqu'un et le rendre méconnaissable. Le jeune marquis de Beausergent, que j'avais vu dans la loge de Madame de Cambremer, alors sous-lieutenant, le jour où Madame de Guermantes était dans la baignoire de sa cousine, avait toujours ses traits aussi parfaitement réguliers, plus même. La rigidité physiologique de l'artériosclérose exagérant encore la rectitude impassible de la physionomie du dandy, et donnant à ses traits l'intense netteté, presque grimaçante à force d'immobilité, qu'ils auraient eu dans une étude de Mantegna ou de Michel-Ange. Son teint, jadis d'une rougeur égrillarde, était maintenant d'une solennelle pâleur. Des poils argentés, un léger embonpoint, une noblesse de doge, une fatigue qui allait jusqu'à l'envie de dormir, tout concourait chez lui à donner une impression nouvelle de majesté fatale. Au rectangle de sa barbe blonde, le rectangle égal de sa barbe blanche se substituait si parfaitement que, remarquant que ce sous-lieutenant que j'avais connu avait 5 galons, ma première pensée fut de le féliciter, non d'avoir été promu colonel, mais d'être si bien en colonel, déguisement pour lequel il semblait avoir emprunté l'uniforme, l'air grave et triste de l'officier supérieur qu'avait été son père. Chez un autre, la barbe blanche avait succédé à la barbe blonde, mais comme le visage était resté vif, souriant et jeune, elle le faisait paraître seulement plus rouge et plus militant, augmentant l'éclat des yeux, et donnant au mondain resté jeune l'air inspiré d'un prophète. La transformation que les cheveux blancs et d'autres éléments encore avaient opéré, surtout chez les femmes, m'eussent retenu avec moins de force s'il n'avait été qu'un changement de couleur, ce qui peut charmer les yeux, mais parce qu'est troublant pour l'esprit un changement de personne. En effet, reconnaître quelqu'un, et plus encore après n'avoir pas pu le reconnaître, l'identifier, c'est penser sous une seule dénomination deux choses contradictoires. C'est admettre que ce qui était ici l'être qu'on se rappelle n'est plus, et que ce qui est, c'est un être qu'on ne connaissait pas. C'est avoir à percer un mystère, presque aussi troublant que celui de la mort, dont il est du reste, comme la préface et l'annonciateur. Car ces changements, je savais ce qu'ils voulaient dire, ce à quoi ils préludaient. Aussi, cette blancheur des cheveux impressionnait chez les femmes, jointe à tant d'autres changements. On me disait un nom, et je restais stupéfait de penser qu'il s'appliquait à la fois à la blonde valseuse que j'avais connue autrefois et à la lourde dame à cheveux blancs qui passait pesamment près de moi. Avec une certaine roseur de teint, ce nom était peut-être la seule chose qu'il y avait de commun entre ces deux femmes, plus différentes, celle de la mémoire et celle de la matinée guermante, qu'une ingénue et une douairière de pièces de théâtre. Pour que la vie ait pu arriver à donner à la valseuse ce corps énorme, pour qu'elle eût pu ralentir, comme au métronome, ses mouvements embarrassés, pour qu'avec peut-être comme seule parcelle permanente les joues, plus larges certes, mais qui dès la jeunesse étaient déjà couperosées, elle eût pu substituer à la légère blonde ce vieux maréchal ventripotent. Il lui avait fallu accomplir plus de dévastation et de reconstitution que pour mettre un dôme à la place d'une flèche. Et quand on pensait qu'un pareil travail s'était opéré non sur la matière inerte, mais sur une chair qui ne change qu'insensiblement, le contraste bouleversant entre l'apparition présente et l'être que je me rappelais reculait celui-ci dans un passé plus que lointain, presque invraisemblable. On avait peine à réunir les deux aspects, à penser les deux personnes sous une même dénomination. Car de même qu'on a peine à penser qu'un mort fût vivant, ou que celui qui était vivant est mort aujourd'hui, il est presque aussi difficile, et du même genre de difficulté, car l'anéantissement de la jeunesse, la destruction d'une personne pleine de force et de légèreté, est déjà un premier néant. De concevoir que celle qui fut jeune est vieille, quand l'aspect de cette vieille, juxtaposé à celui de la jeune, semble tellement l'exclure que tour à tour, c'est la vieille, puis la jeune, puis la vieille encore, qui vous paraissent un rêve, et qu'on ne croirait pas que ceci peut avoir jamais été cela, que la matière de cela est elle-même, sans se réfugier ailleurs, grâce aux savantes manipulations du temps, devenu ceci, que c'est la même matière, n'ayant pas quitté le même corps. Si l'on avait l'indice du nom pareil et le témoignage affirmatif des amis, auxquels donne seule une apparence de vraisemblance, la coupe rose, jadis étroite entre l'or des épis, aujourd'hui étalée sous la neige. On était effrayé en pensant aux périodes qui avaient dû s'écouler avant que s'accomplît une pareille révolution dans la géologie d'un visage, et de voir quelles érosions s'étaient faites le long du nez, quelles énormes alluvions au bord des joues entouraient toute la figure de leur masse opaque et réfractaire. J'avais bien considéré toujours notre individu à un moment donné du temps comme un polypier, où l'œil, organisme indépendant, bien qu'associé, si une poussière passe, cligne sans que l'intelligence le commande. Bien plus, où l'intestin, parasite enfoui, s'infecte sans que l'intelligence la prenne. Mais aussi et pareillement pour l'âme dans la durée de la vie, comme une suite de mois juxtaposés, mais distincts, qui mourraient les uns après les autres, ou même alterneraient entre eux, comme ceux qui, à Combray, prenaient pour moi la place l'un de l'autre quand venait le soir. Mais aussi, j'avais vu que ces cellules morales qui composent un être sont plus durables que lui. J'avais vu les vices, le courage des guermantes revenir en Saint-Loup comme en lui-même ses défauts étranges et brefs de caractère, comme le sémitisme de Swann. Je pouvais le voir encore en bloc. Depuis qu'il avait perdu son père, l'idée, outre les grands sentiments de famille qui existent souvent dans les familles juives, que son père était un homme tellement supérieur à tous, avait donné à son amour pour lui la forme d'un culte. Il n'avait pu supporter l'idée de l'avoir perdu et avait dû s'enfermer près d'une année dans une maison de santé. Il avait répondu à mes condoléances sur un ton à la fois profondément senti et presque hautain, tant il me jugeait enviable d'avoir rapproché cet homme supérieur dont il eût volontiers donné la voiture à deux chevaux à quelque musée historique. Et maintenant, à sa table de famille, car contrairement à ce que croyait la duchesse de Guermantes, il était marié. La même colère qui animait Bloch contre M. Nissim Bernard animait Bloch contre son beau-père. Il lui faisait les mêmes sorties. De même qu'en écoutant parler Cottard, Brichot, tant d'autres, j'avais senti que, par la culture et la mode, une seule ondulation propage dans toute l'étendue de l'espace les mêmes manières de dire, de penser. De même, dans toute la durée du temps, de grandes lames de fond soulèvent des profondeurs des âges les mêmes colères, les mêmes tristesses, les mêmes bravoures, les mêmes manies à travers les générations superposées. Chaque section, prise à plusieurs niveaux d'une même série, offrant la répétition, comme des ombres sur des écrans successifs, d'un tableau aussi identique, quoique souvent moins insignifiant, que celui qui mettait aux prises de la même façon M. Bloch et son beau-père, M. Bloch père et M. Nissim Bernard, et d'autres que je n'avais pas connus. Il y avait des hommes que je savais parents d'autres, sans avoir jamais pensé qu'ils eussent un trait commun. En admirant le vieil ermite aux cheveux blancs qui était devenu le Grandin, tout d'un coup je constatai, je peux dire que je découvris, avec une satisfaction de zoologiste, dans le méplat de ses joues, la construction de celle de son jeune neveu Léonore de Cambremer, qui pourtant avait l'air de ne lui ressembler nullement. À ce premier trait commun, j'en ajoutai un autre, que je n'avais pas jusqu'ici remarqué chez Léonore de Cambremer. Puis d'autres, et qui n'étaient aucun de ceux que m'offrait d'habitude la synthèse de sa jeunesse. De sorte que j'eus bientôt de lui comme une caricature plus vraie, plus profonde, que si elle avait été littéralement ressemblante. Son oncle me semblait maintenant le jeune Cambremer, ayant pris pour s'amuser les apparences du vieillard, qu'en réalité il serait un jour, si bien que ce n'était plus seulement ce qu'étaient devenus les jeunes d'autrefois, mais ce que deviendraient ceux d'aujourd'hui, qui me donnaient avec tant de force la sensation du temps. Les femmes tâchaient à rester en contact avec ce qui avait été le plus individuel de leur charme, mais souvent la matière nouvelle de leur visage ne s'y prêtait plus. Les traits où s'était gravée, sinon la jeunesse, du moins la beauté, ayant disparu chez la plupart d'entre elles, elles avaient alors cherché si, avec le visage qui leur restait, on ne pouvait s'en faire une autre. Déplaçant le centre, sinon de gravité, du moins de perspective de leur visage, en composant les traits autour de lui, suivant un autre caractère, elles commençaient à 50 ans une nouvelle sorte de beauté, comme on prend sur le tard un nouveau métier, ou comme à une terre qui ne vaut plus rien pour la vigne, on fait produire des betteraves. Autour de ces traits nouveaux, on faisait fleurir une nouvelle jeunesse. Seules ne pouvaient s'accommoder de ces transformations les femmes trop belles ou trop laides. Les premières, sculptées comme un marbre aux lignes définitives, duquel on ne peut plus rien changer, s'effritaient comme une statue. Les secondes, qui avaient quelques difformités de la face, avaient même sur les belles certains avantages. D'abord, c'étaient les seules qu'on reconnaissait tout de suite. On savait qu'il n'y avait pas à Paris deux bouches pareilles, et la leur me les faisait reconnaître dans cette matinée où je ne reconnaissais plus personne. Et puis, elles n'avaient même pas l'air d'avoir vieilli. La vieillesse est quelque chose d'humain. Elles étaient des monstres, et elles ne semblaient pas avoir plus changé que des baleines. D'autres hommes, d'autres femmes, ne semblaient pas non plus avoir vieilli. Leur tournure était aussi svelte, leur visage aussi jeune. Mais si, pour leur parler, on se mettait tout près de leur figure lisse de peau et fine de contour, alors elle apparaissait tout autre, comme il arrive pour une surface végétale, une goutte d'eau, de sang, si on la place sous le microscope. Alors, je distinguais de multiples taches graisseuses sur la peau que j'avais crue lisse, et dont elle me donnait le dégoût. Les lignes ne résistaient pas à cet agrandissement. Celles du nez se brisaient de près, s'arrondissaient, envahies par les mêmes cercles huileux que le reste de la figure. Et de près, les yeux rentraient sous des poches qui détruisaient la ressemblance du visage actuel avec celui du visage d'autrefois qu'on avait cru retrouver. De sorte que, à l'égard de ces invités-là, ils étaient jeunes vus de loin. Leur âge augmentait avec le grossissement de leur figure et la possibilité d'en observer les différents plans. Pour eux, en somme, la vieillesse restait dépendante du spectateur, qui avait à se bien placer pour voir ces figures-là rester jeunes et à n'appliquer sur elles que ces regards lointains qui diminuent l'objet sans le verre que choisit l'opticien pour un presbyte. Pour elle, la vieillesse, décelable comme la présence des infusoires dans une goutte d'eau, était amenée par le progrès moins des années que, dans la vision de l'observateur, du degré de l'échelle de grossissement. En général, le degré de blancheur des cheveux semblait comme un signe de la profondeur du temps vécu, comme ces sommets montagneux qui, même apparaissant aux yeux sur la même ligne que d'autres, révèlent pourtant le niveau de leur altitude par l'éclat de leur neigeuse blancheur. et ce n'était pourtant pas toujours exact, surtout pour les femmes. Ainsi, les mèches de la princesse de Guermantes, qui, lorsqu'elles étaient grises et brillantes comme de la soie, semblaient d'argent autour de son front bombé, ayant pris à force de devenir blanches une matité de laine et d'étoupe, semblaient au contraire, à cause de cela, être grises comme une neige salie qui a perdu son éclat. Et souvent, de blondes danseuses ne s'étaient pas seulement annexées avec une perruque de cheveux blancs l'amitié de duchesse qu'elles ne connaissaient pas autrefois, mais n'ayant fait jadis que danser, l'art les avait touchées comme la grâce. Et comme au XVIIe siècle, d'illustres dames entraient en religion, elles vivaient dans un appartement rempli de peintures cubistes, un peintre cubiste ne travaillant que pour elles, et elle ne vivant que pour lui. Pour les vieillards, dont les traits avaient changé, ils tâchaient pourtant de garder, fixés sur eux à l'état permanent, une de ces expressions fugitives qu'on prend pour une seconde de pause et avec lesquelles on essaye, soit de tirer parti d'un avantage extérieur, soit de pallier un défaut. Ils avaient l'air d'être définitivement devenus d'immutables instantanés d'eux-mêmes. Tous ces gens avaient mis tant de temps à revêtir leur déguisement que celui-ci passait généralement inaperçu de ceux qui vivaient avec eux. Même un délai leur était souvent concédé où ils pouvaient continuer assez tard à rester eux-mêmes. Mais alors, ce déguisement prorogé se faisait plus rapidement. De toute façon, il était inévitable. Je n'avais jamais trouvé aucune ressemblance entre Madame X et sa mère, que je n'avais connue que vieille, ayant l'air d'un petit Turc tout tassé. Et en effet, j'avais toujours connu Madame X charmante et droite, et pendant très longtemps elle l'était restée, pendant trop longtemps, car comme une personne qui, avant que la nuit n'arrive, à ne pas oublier de revêtir son déguisement de turc, elle s'était mise en retard. Et aussi, était-ce précipitamment, presque tout d'un coup, qu'elle s'était tassée et avait reproduit avec fidélité l'aspect de vieille turque revêtue jadis par sa mère. Je retrouvais là un de mes anciens camarades que, pendant 10 ans, j'avais vu presque tous les jours. On demanda à nous représenter. J'allai donc à lui, et il me dit d'une voix que je reconnus très bien. « C'est une bien grande joie pour moi après tant d'années. » Mais quelle surprise pour moi! Cette voix semblait émise par un phonographe perfectionné, car si c'était celle de mon ami, elle sortait d'un gros bonhomme grisonnant que je ne connaissais pas. Et dès lors, il me semblait que ce ne put être qu'artificiellement, par un truc de mécanique, qu'on avait logé la voix de mon camarade sous ce gros vieillard quelconque. Pourtant je savais que c'était lui, la personne qui nous avait présenté, après si longtemps, l'un à l'autre, n'avait rien d'un mystificateur. Lui-même me déclara que je n'avais pas changé, et je compris ainsi qu'il ne se croyait pas changé. Alors je le regardai mieux. Et en somme, sauf qu'il avait tellement grossi, il avait gardé bien des choses d'autrefois. Pourtant je ne pouvais comprendre que ce fût lui. Alors j'essayais de me rappeler. Il avait dans sa jeunesse des yeux bleus, toujours riants, perpétuellement mobiles, en quête évidemment de quelque chose à quoi je n'avais pensé et qui devait être fort désintéressé. La vérité sans doute. Poursuivi en perpétuelle incertitude, avec une sorte de gaminerie, de respect errant pour tous les amis de sa famille. Or, devenu homme politique influent, capable, despotique, ses yeux bleus, qui d'ailleurs n'avaient pas trouvé ce qu'il cherchait, s'étaient immobilisés, ce qui leur donnait un regard pointu, comme sous un sourcil froncé. Aussi, l'expression de gaieté, d'abandon, d'innocence s'était-elle changée en une expression de ruse et de dissimulation. Décidément, il me semblait que c'était quelqu'un d'autre. Quand tout d'un coup, j'entendis, à une chose que je disais, son rire, son fou rire d'autrefois, celui qui allait avec la perpétuelle mobilité gaie du regard. Des mélomanes trouvent qu'orchestrée par X, la musique de Z devient absolument différente. Ce sont des nuances que le vulgaire ne saisit pas, mais un fou rire étouffé d'enfant, sous un œil en pointe comme un crayon bleu bien taillé, quoique un peu de travers, c'est plus qu'une différence d'orchestration. Le rire cessé, j'aurais bien voulu reconnaître mon ami. Mais, comme dans l'Odyssée, Ulysse s'élançant sur sa mère morte, comme un spirite essayant en vain d'obtenir d'une apparition une réponse qui l'identifie, comme le visiteur d'une exposition d'électricité qui ne peut croire que la voix que le phonographe restitue inaltérée ne soit tout de même spontanément émise par une personne, je cessais de reconnaître mon ami. Il faut cependant faire cette réserve, que les mesures du temps lui-même peuvent être pour certaines personnes accélérées ou ralenties. Par hasard, j'avais rencontré dans la rue, il y avait 4 ou 5 ans, la vicomtesse de Saint-Fiacre, belle-fille de l'ami des Guermantes. Ses traits sculpturaux semblaient lui assurer une jeunesse éternelle. D'ailleurs, elle était encore jeune. Or, je ne pus, malgré ses sourires et ses bonjours, la reconnaître en une dame aux traits tellement déchiquetés que la ligne du visage n'était pas restituable. C'est que depuis 3 ans, elle prenait de la cocaïne et d'autres drogues. Ses yeux, profondément cernés de noir, était presque hagard. Sa bouche avait un rictus étrange. Elle s'était levée, me dit-on, pour cette matinée, restant des mois sans quitter son lit ou sa chaise longue. Le temps a ainsi des trains express et spéciaux qui mènent à une vieillesse prématurée. Mais sur la voie parallèle circulent des trains de retour, presque aussi rapides. Je pris monsieur de Courgivaux pour son fils, car il avait l'air plus jeune. Il devait avoir dépassé la 50aine et semblait plus jeune qu'à 30 ans. Il avait trouvé un médecin intelligent, supprimé l'alcool et le sel. Il était revenu à la 30aine et semblait même ce jour-là ne pas l'avoir atteinte. C'est qu'il s'était, le matin même, fait couper les cheveux. Chose curieuse, le phénomène de la vieillesse semblait, dans ses modalités, tenir compte de quelques habitudes sociales. Certains grands seigneurs, mais qui avaient toujours été revêtus du plus simple alpaga, coiffés de vieux chapeaux de paille que les petits bourgeois n'auraient pas voulu porter, avaient vieilli de la même façon que les jardiniers, que les paysans au milieu desquels ils avaient vécu. Des taches brunes avaient envahi leurs joues, et leur figure avait jauni, s'était foncée comme un livre. Et je pensais aussi à tous ceux qui n'étaient pas là parce qu'ils ne le pouvaient pas, que leur secrétaire, cherchant à donner l'illusion de leur survie, avait excusé par une de ces dépêches qu'on remettait de temps à autre à la princesse, à ces malades depuis des années mourants qui ne se lèvent plus, ne bougent plus, et même au milieu de l'assiduité frivole de visiteurs attirés par une curiosité de touriste ou une confiance de pèlerin, les yeux clos, tenant leur chapelet, rejetant à demi leurs draps déjà mortuaires, sont pareils à des gisants que le mal a sculptés jusqu'au squelette dans une chair rigide et blanche comme le marbre et étendue sur leur tombeau. Sans doute, certaines femmes étaient encore très reconnaissables. Le visage était resté presque le même, et elles avaient seulement, comme par une harmonie convenable avec la saison, revêtu les cheveux gris qui étaient leur parure d'automne. Mais pour d'autres, et pour des hommes aussi, la transformation était si complète, l'identité si impossible à établir, par exemple, entre un noir viveur qu'on se rappelait et le vieux moine qu'on avait sous les yeux. Que, plus même qu'à l'art de l'acteur, c'était à celui de certains prodigieux mimes, dont Frigoli reste le type, que faisaient penser ces fabuleuses transformations. La vieille femme avait envie de pleurer, en comprenant que l'indéfinissable et mélancolique sourire qui avait fait son charme ne pouvait plus arriver à irradier jusqu'à la surface de ce masque de plâtre que lui avait appliqué la vieillesse. Puis, tout à coup, découragée de plaire, trouvant plus spirituel de se résigner, elle s'en servait comme d'un masque de théâtre pour faire rire. Mais presque toutes les femmes n'avaient pas de trêve dans leur effort pour lutter contre l'âge, et tendaient vers la beauté qui s'éloignait comme un soleil couchant, et dont elles voulaient passionnément conserver les derniers rayons, le miroir de leur visage. Pour y réussir, certaines cherchaient à l'aplanir, à élargir la blanche superficie, renonçant au piquant des fossettes menacées, aux mutineries d'un sourire condamné et déjà à demi désarmé. Tandis que d'autres, voyant la beauté définitivement disparue et obligées de se réfugier dans l'expression, comme on compense par l'art de la diction la perte de la voix, se raccrochaient à une moue, à une patte d'oie, à un regard vague, parfois à un sourire, qui, à cause de l'incoordination de muscles qui n'obéissaient plus, leur donnait l'air de pleurer. Une grosse dame me dit un bonjour pendant la courte durée duquel les pensées les plus différentes se pressèrent dans mon esprit. J'hésitais un instant à lui répondre, craignant que, ne reconnaissant pas les gens mieux que moi, elle eût cru que j'étais quelqu'un d'autre. Puis son assurance me fit au contraire, de peur que ce fût quelqu'un avec qui j'avais été liée, exagérer l'amabilité de mon sourire, pendant que mes regards continuaient à chercher dans ses traits le nom que je ne trouvais pas. Tel un candidat au baccalauréat, incertain de ce qu'il doit répondre, attache ses regards sur la figure de l'examinateur et espère vainement y trouver la réponse, qu'il ferait mieux de chercher dans sa propre mémoire. Tel, tout en lui souriant, j'attachai mes regards sur les traits de la grosse dame. Ils me semblèrent être ceux de madame de Forcheville. Aussi mon sourire se nuança-t-il de respect, pendant que mon indécision commençait à cesser. Alors, j'entendis la grosse dame me dire, une seconde plus tard, « Vous me preniez pour maman. En effet, je commence à lui ressembler beaucoup. » Et je reconnus Gilberte. D'ailleurs, même chez les hommes qui n'avaient subi qu'un léger changement, dont seule la moustache était devenue blanche, on sentait que ce changement n'était pas positivement matériel. C'était comme si on les avait vus à travers une vapeur colorante, ou mieux, un verre peint qui changeait l'aspect de leur figure, mais surtout parce qu'il y ajoutait de troubles, montrait que ce qu'il nous permettait de voir grandeur nature était en réalité très loin de nous, dans un éloignement différent, il est vrai, de celui de l'espace, mais du fond duquel, comme d'un autre rivage, nous sentions qu'ils avaient autant de peine à nous reconnaître que nous, eux. Seule peut-être madame de Forcheville, que j'aperçus alors comme injectée d'un liquide, d'une espèce de paraffine qui gonfle la peau, mais l'empêche de se modifier, avait l'air d'une cocotte d'autrefois à jamais naturalisée. « Vous me prenez pour ma mère !» m'avait dit Gilberte. C'était vrai. C'eût été d'ailleurs aimable pour la fille. D'ailleurs, il n'y avait pas que chez cette dernière qu'avaient apparu des traits familiaux qui, jusque-là, étaient restés aussi invisibles dans sa figure que ces parties d'une graine repliées à l'intérieur et dont on ne peut deviner la saillie qu'elles feront un jour en dehors. Ainsi, un énorme buscage maternel venait, chez l'une ou chez l'autre, transformer vers la cinquantaine un nez jusque-là droit et pur. Chez une autre fille de banquier, le teint d'une fraîcheur de jardinière se roussissait, se cuivrait, et prenait comme le reflet de l'or qu'avait tant manié le père. Certains même avaient fini par ressembler à leur quartier, portés sur eux comme le reflet de la rue de l'Arcade, de l'avenue du Bois, de la rue de l'Élysée. Mais surtout, ils reproduisaient les traits de leurs parents. On part de l'idée que les gens sont restés les mêmes et on les trouve vieux. Mais une fois que l'idée dont on part est qu'ils sont vieux, on les retrouve, on ne les trouve pas si mal. Pour Odette, ce n'était pas seulement cela. Son aspect, une fois qu'on savait son âge et qu'on s'attendait à une vieille femme, semblait un défi plus miraculeux aux lois de la chronologie que la conservation du radium à celle de la nature. Elle, si je ne la reconnus pas d'abord, ce fut non parce qu'elle avait, mais parce qu'elle n'avait pas changé. Me rendant compte depuis une heure de ce que le temps ajoutait de nouveau aux êtres et de ce qu'il fallait soustraire pour les retrouver tels que je les avais connus, je faisais maintenant rapidement ce calcul et, ajoutant à l'ancienne Odette le chiffre d'années qui avait passé sur elle, le résultat que je trouvais fut une personne qui me semblait ne pas pouvoir être celle que j'avais sous les yeux, précisément parce que celle-là était pareille à celle d'autrefois. Quel était le fait du fard, de la teinture? Elle avait l'air sous ses cheveux dorés tout plats, un peu un chignon ébouriffé de grosses poupées mécaniques, sur une figure étonnée et immuable également de poupée, auquel se superposait un chapeau de paille, plat aussi, de l'exposition de 1878, dont elle eût certes été alors, et surtout si elle eût eu alors l'âge d'aujourd'hui, la plus fantastique merveille. Venant débiter son compliment dans une revue de fin d'année. Mais de l'exposition de 1878, représentée par une femme encore jeune. À côté de nous, un ministre d'avant l'époque boulangiste, et qu'il était de nouveau, passait lui aussi en envoyant aux dames un sourire tremblotant et lointain, mais comme emprisonné dans les mille liens du passé, comme un petit fantôme qu'une main invisible promenait, diminué de taille, changé dans sa substance et ayant l'air d'une réduction en pierre ponce de soi-même. Cet ancien président du Conseil, si bien reçu dans le faubourg Saint-Germain, avait jadis été l'objet de poursuites criminelles, exécré du monde et du peuple. Mais grâce au renouvellement des individus qui composent l'un et l'autre, et dans les individus subsistants, des passions et même des souvenirs, personne ne le savait plus, et il était honoré. Aussi, n'y a-t-il pas d'humiliation si grande dont on ne devrait prendre aisément son parti, sachant qu'au bout de quelques années, nos fautes ensevelies ne seront plus qu'une invisible poussière sur laquelle sourira la paix souriante et fleurie de la nature. L'individu momentanément taré se trouvera, par le jeu d'équilibre du temps, pris entre deux couches sociales nouvelles qui n'auront pour lui que déférence et admiration, et au-dessus desquelles il se prélassera aisément. Seulement, c'est au temps qu'est confié ce travail, et au moment de ses ennuis, rien ne peut le consoler que la jeune laitière d'en face l'ait entendu appeler « Chécar » par la foule qui montrait le poing, tandis qu'il entrait dans le panier à salade. La jeune laitière qui ne voit pas les choses dans le plan du temps, qui ignore que les hommes qu'encense le journal du matin furent déconsidérés jadis, et que l'homme qui frise la prison en ce moment, et peut-être en pensant à cette jeune laitière, n'aura pas les paroles humbles qui lui concilieraient la sympathie, sera un jour célébré par la presse et recherché par les duchesses. Le temps éloigne pareillement les querelles de famille. Et chez la princesse de Guermantes, on voyait un couple où le mari et la femme avaient pour oncle, mort aujourd'hui, deux hommes qui ne s'étaient pas contentés de se souffleter, mais dont l'un, pour humilier l'autre, lui avait envoyé comme témoin son concierge et son maître d'hôtel, jugeant que des gens du monde eussent été trop bien pour lui. Mais ces histoires dormaient dans les journaux d'il y a 30 ans et personne ne les savait plus. Et ainsi, le salon de la princesse de Guermantes était illuminé, oublieux et fleuri, comme un paisible cimetière. Le temps n'y avait pas seulement des faits d'anciennes créatures, il y avait rendu possible, il y avait créé des associations nouvelles. Pour en revenir à cet homme politique, malgré son changement de substance physique, tout aussi profond que la transformation des idées morales qu'il éveillait maintenant dans le public, en un mot, malgré tant d'années passées, depuis qu'il avait été président du Conseil, il était redevenu ministre. Ce président du Conseil d'il y a 40 ans faisait partie du nouveau cabinet, dont le chef lui avait donné un portefeuille, un peu comme ses directeurs de théâtre confient un rôle à une de leurs anciennes camarades, retirée depuis longtemps, mais qu'ils jugent encore plus capable que les jeunes de tenir un rôle avec finesse, de laquelle, d'ailleurs, ils savent la difficile situation financière, et qui, à près de 80 ans, montre encore au public l'intégrité de son talent, presque intacte, avec cette continuation de la vie qu'on s'étonne ensuite d'avoir pu constater quelques jours avant la mort. L'aspect de Madame de Forcheville était si miraculeux qu'on ne pouvait même pas dire qu'elle avait rajeuni, mais plutôt qu'avec tous ses carmins, toutes ses rousseurs, elle avait refleuri. Plus même que l'incarnation de l'exposition universelle de 1878, elle eût été, dans une exposition végétale d'aujourd'hui, la curiosité et le clou. Pour moi, du reste, elle ne semblait pas dire « Je suis l'exposition de 1878 », mais plutôt « Je suis l'allée des acacias de 1892 ». Il semblait qu'elle eût pu y être encore. D'ailleurs, justement parce qu'elle n'avait pas changé, elle ne semblait guère vivre. Elle avait l'air d'une rose stérilisée. Je lui dis bonjour, elle chercha quelque temps, mais en vain, mon nom sur mon visage. Je me nommais, et aussitôt, comme si j'avais perdu, grâce à ce nom incantateur, l'apparence d'arbousier ou de kangourou que l'âge m'avait sans doute donnée, elle me reconnut et se mit à me parler de cette voix si particulière que les gens qui l'avaient applaudie dans les petits théâtres étaient si émerveillés quand ils étaient invités à déjeuner avec elle, à la ville, de retrouver dans chacune de ses paroles, pendant toute la causerie, tant qu'ils voulaient. Cette voix était restée la même, inutilement chaude, prenante, avec un rien d'accent anglais. Et pourtant, de même que ses yeux avaient l'air de me regarder d'un rivage lointain, sa voix était triste, presque suppliante, comme celle des morts dans l'Odyssée. Odette eût pu jouer encore. Je lui fis des compliments sur sa jeunesse. Elle me dit « Vous êtes gentille, my dear, merci ». Et comme elle donnait difficilement à un sentiment, même le plus vrai, une expression qui ne fût pas affectée par le souci de ce qu'elle croyait élégant, elle répéta à plusieurs reprises « Merci tant, merci tant ». Mais moi, qui avais jadis fait de si longs trajets pour l'apercevoir au bois, qui avais écouté le son de sa voix tomber de sa bouche la première fois que j'avais été chez elle, comme un trésor, les minutes passées maintenant auprès d'elle me semblaient interminables à cause de l'impossibilité de savoir que lui dire. Et je m'éloignais. Hélas, elle ne devait pas rester toujours telle. Moins de 3 ans après, non pas en enfance, mais un peu ramollie, je devais la voir à une soirée donnée par Gilberte, devenue incapable de cacher sous un masque immobile ce qu'elle pensait. Pensait, et beaucoup dire, ce qu'elle éprouvait, hochant la tête, serrant la bouche, secouant les épaules à chaque impression qu'elle ressentait, comme ferait un ivrogne, un enfant, comme font certains poètes qui ne tiennent pas compte de ce qui les entoure. Et, inspirés, composent dans le monde, et tout en allant à table au bras d'une dame étonnée, froncent les sourcils, font la moue. Les impressions de madame de Forcheville, sauf une, celle qui l'avait fait précisément assister à la soirée donnée par Gilberte, la tendresse pour sa fille bien-aimée, l'orgueil qu'elle donna à une soirée si brillante, orgueil que ne voilait pas chez la mère la mélancolie de ne plus être rien. Ces impressions n'étaient pas joyeuses et commandaient seulement une perpétuelle défense contre les avanies qu'on lui faisait, défense timorée comme celle d'un enfant. On n'entendait que ces mots. « Je ne sais pas si madame de Forcheville me reconnaît. Je devrais peut-être me faire présenter à nouveau. » Ça, par exemple, vous pouvez vous en dispenser, répondait-on à tue-tête, sans songer que la mère de Gilberte entendait tout, sans y songer ou sans en soucier. C'est bien inutile, pour l'agrément qu'elle vous apportera. On la laisse dans son coin, du reste, elle est un peu gaga. Furtivement, madame de Forcheville lançait un regard de ses yeux restés si beaux sur les interlocuteurs injurieux, puis vite ramenait ce regard à elle de peur d'avoir été impolie. Et tout de même agitée par l'offense, taisant sa débile indignation, on voyait sa tête branlée, sa poitrine se soulever. Elle jetait un nouveau regard sur un autre assistant aussi peu poli et ne s'étonnait pas outre mesure, car se sentant très mal depuis quelques jours, elle avait à mots couverts suggéré à sa fille de remettre la fête, mais sa fille avait refusé. Madame de Forcheville ne l'en aimait pas moins. Toutes les duchesses qui entraient, l'admiration de tout le monde pour le nouvel hôtel, inondaient de joie son cœur. Et quand entra la marquise de Sebran, qui était alors la dame où menait si difficilement le plus haut échelon social, madame de Forcheville sentit qu'elle avait été une bonne et prévoyante mère et que sa tâche maternelle était achevée. De nouveaux invités ricaneurs la firent à nouveau regarder et parler toute seule. Si c'est parler que tenir un langage muet qui se traduit seulement par des gesticulations. Si belle encore, elle était devenue, ce qu'elle n'avait jamais été, infiniment sympathique. Car elle, qui avait trompé Swann et tout le monde, c'était l'univers entier qui maintenant la trompait. Et elle était devenue si faible qu'elle n'osait même plus, les rôles étant retournés, se défendre contre les hommes. Et bientôt, elle ne se défendrait pas contre la mort. Mais après cette anticipation, revenons 3 ans en arrière, c'est-à-dire à la matinée où nous sommes chez la princesse de Guermantes.